Jusqu'à la fin du mois d'août, je vous propose de vous rafraîchir la mémoire en vous offrant quelques-unes de vos émissions préférées issues de nos archives.
La marche du monde.
Le porte-parole des djihadistes de l'État islamique en Irak et au Levant annonce l'établissement d'un califat islamique. Nous sommes le 29 juin 2014.
Donc voici le drapeau de l'État islamique unifié, flottant haut et projetant son ombre d'Alep à Diyala. Et en dessous de lui, le mur des oppresseurs est détruit et leur drapeau abaissé. Et donc l'État islamique a décidé avec les anciens, les émirs et la choura de l'État islamique d'annoncer l'établissement du califat islamique. Et l'État a désigné en tant que calife le cheikh djihadiste imam et descendant de la maison du prophète Abdullah Ibrahim al-Baghdadi. Et il a accepté la proposition et devient ainsi l'imam et le calife des musulmans partout.
Un siècle après la Première Guerre mondiale et le partage du monde arabe entre les Britanniques et les Français, l'organisation État islamique combat l'Irak et la Syrie et transgresse leurs frontières issues de la colonisation. Une convocation de l'histoire qui invite à revenir sur la naissance de l'Irak et de la Syrie telle que nous les avons connues depuis près d'un siècle.
La marche du monde, Valérie Nivelon.
Et pour nous éclairer sur l'histoire du Moyen-Orient depuis 1914, je reçois l'historien Pierre-Jean Luisard. Bonjour.
Bonjour.
Je rappelle que vous êtes directeur de recherche au CNRS et spécialiste du Moyen-Orient, où vous vous rendez d'ailleurs très régulièrement. Et dans votre dernier livre, Le piège Daesh, paru aux éditions La Découverte, vous écrivez que nous ne reviendrons pas au Moyen-Orient que nous avons connu depuis près d'un siècle. Qu'est-ce que cela signifie ?
Cela signifie que les États et les frontières sont directement remis en cause. On le voit aujourd'hui, la frontière entre la Syrie et l'Irak est totalement contrôlée par un État qui a une prétention étatique sur les deux pays. Et je pense que c'est un processus irréversible auquel nous assistons et qu'il y a une sorte de nouveau grand jeu qui va s'établir dont on ne connaît pas encore l'issue.
L'État islamique à la lumière de l'histoire, c'est avec notre invité Pierre-Jean Luisard, et c'est tout de suite dans la marche du monde.
Le colonel Brighton espère que je placerai mes hommes sous le commandement d'officiers européens, n'est-ce pas ?
Oui, effectivement, monseigneur.
Et il faut que je le fasse, parce que les Turcs sont armés de canons européens. Mais je redoute de le faire. Sur ma foi, je le redoute. Les Anglais ont un appétit étrange pour les terres désolées. J'ai peur que cet appétit s'étende à l'Arabie.
Alors il ne faut pas la leur donner.
Vous êtes Anglais vous-même. Vous n'êtes pas fidèle à l'Angleterre ?
À l'Angleterre et à certaines autres choses.
À l'Angleterre et à l'Arabie à la fois ? Mais est-ce possible ?
Une alliance entre Britanniques et tribus arabes pour combattre les Ottomans. Une révolte arabe conduite par le jeune officier britannique Thomas Edward Lawrence. C'est le film Lawrence d'Arabie. Et c'est peut-être d'abord un rêve, celui du seigneur Faisal, de fonder un royaume arabe, Pierre-Jean Luisard.
C'était le rêve d'une partie importante des élites politiques levantines, hein, c'est-à-dire de ce qui est aujourd'hui le Liban, la Syrie, la Palestine, la Jordanie et dans une certaine mesure aussi l'Égypte, c'est-à-dire d'échapper à la tutelle ottomane ou turque et de fonder sur les provinces arrachées à l'Empire ottoman, les provinces arabes, un royaume arabe unifié et pourquoi pas de reprendre le flambeau du califat que beaucoup pensaient usurpé par les Ottomans, afin qu'il revienne à un arabe, et notamment à un arabe membre de la famille du prophète, comme c'était le cas de la famille du shérif Hussein de la Mecque, qui était le gardien des lieux saints.
Alors si les Britanniques vont prêter main forte, puisqu'il y a un intérêt commun, c'est-à-dire combattre les Ottomans, l'Empire Ottoman allié de l'Allemagne, les Britanniques vont également trahir les Arabes.
Eh bien, je vais vous quitter, général. Le commandant Lawrence a certainement des choses intéressantes à vous dire à propos de mon peuple, de sa faiblesse et de la nécessité de maintenir cette faiblesse dans l'intérêt de l'Angleterre. Et de la France aussi, bien entendu. N'oublions pas la France dans cette affaire.
Je vous ai dit qu'il n'y a aucun traité de ce genre.
Oui, général, vous avez menti avec beaucoup de bravoure, mais d'une façon peu convaincante. Je sais que ce traité existe.
Quel traité? Vous n'avez vraiment pas entendu parler du traité Pico-Sykes?
Non.
Dites-lui.
Monsieur Sykes est un haut fonctionnaire anglais. Monsieur Picot est un haut fonctionnaire français. Monsieur Sykes et Monsieur Picot se sont entendus entre eux pour qu'après la guerre, la France et l'Angleterre se partagent les restes de l'Empire turc, y compris l'Arabie. Ils ont donc signé un accord. Pas un traité, mon général. Un accord. À cet effet.
Les frontières de l'Irak et de la Syrie dépendraient donc des accords secrets entre les Britanniques et les Français, des accords enseignés dans les manuels scolaires comme une trahison, Pierre-Jean Louisard.
En fait, les frontières actuelles entre les différents États arabes du Moyen-Orient ne sont pas les frontières héritées des accords secrets Sykes-Picot. Elles ont été, pour les unes et pour les autres, élaborées au cours des années 20 en fonction de différents critères et dans un contexte d'après-guerre extrêmement complexe. Il y avait évidemment la rivalité franco-britannique, mais il y avait aussi la menace kémaliste au nord qu'il ne faut pas oublier, avec les revendications de Mustafa Kemal sur une partie de Mossoul et sur une partie du territoire syrien. Donc les frontières vont être fixées au fil des années 1920, mais il est vrai qu'elles remplaçaient un rêve qui était un rêve que les Britanniques avaient fait miroiter aux Arabes.
Alors pour quelles raisons, à votre sens, le 10 juin 2014, la propagande de l'État islamique a annoncé que l'État islamique avait franchi la frontière Sykes Picot?
Tout simplement parce que le calife autoproclamé Abu Bakr el-Baghdadi de l'État islamique n'était pas candidat ni au CAPES ni à l'agrégation d'histoire, et qu'il était dans l'instrumentalisation de l'histoire plus que devant un jury académique. Mais c'était une façon pour lui de positionner l'État islamique comme le grand justicier d'une histoire dont, d'après lui, les Arabes sunnites majoritaires au Moyen-Orient auraient été victimes au profit évidemment des puissances européennes, avec un corollaire, la domination des minorités. Et on va voir qu'il semblait oublier que parmi ces minorités, il y avait la sienne propre. Je rappelle que les Arabes sunnites sont majoritaires partout, sauf en Irak où ils sont une minorité.
Alors nous avons la chance d'avoir un grand historien dans la marche du monde. Ça va nous permettre de parler de la grande histoire. À l'issue de la Grande Guerre, lors de la conférence de San Remo du 25 avril 1920, que vous avez déjà évoquée, l'Irak, la Palestine et la Transjordanie passent sous mandat britannique, alors que la Syrie et le Liban passent sous mandat français. Il y a donc un partage du monde arabe, constitué à l'époque de tribus. J'aimerais comprendre à ce moment-là ce que peut représenter l'idée de nation arabe et pour qui.
Les choses étaient très différentes en fonction des régions. Si l'on prend par exemple les régions du Levant, avec des grandes villes comme Beyrouth, Damas, depuis l'époque de la Nahda, donc de la Renaissance arabe, et avec l'ouverture sur les idées en provenance d'Europe, en particulier l'idée nationale, l'idée que les Arabes pouvaient constituer une nation ethnique, hein, en quelque sorte, donc sur le modèle européen, s'était enracinée parmi un un certain nombre d'élites et les mouvements nationalistes vont accompagner le roi Faisal dans sa marche vers une indépendance syrienne dont on sait qu'elle a échoué face à la toute-puissance militaire française. En revanche, en ce qui concerne l'Irak, là, nous sommes dans un contexte où l'idée de nation était totalement absente et étrangère, à part quelques officiers de l'armée qui ont servi dans la révolte arabe. Par exemple, la communauté chiite majoritaire ne voyait aucun problème à avoir des dirigeants politiques et religieux qui n'étaient pas arabes, mais qui étaient pour la plupart persans.
Alors, si l'on revient effectivement sur la façon dont les États sont fondés, ce qui est frappant, c'est que ces élites ne remettent absolument pas en question les frontières qui ont été dessinées par les Français et les Britanniques.
Tout dépend des élites. Il y a eu en Syrie et en Irak des mouvements armés extrêmement importants, surtout en Irak. Le djihad de 1914-1918 et la révolution de 1920 contre le mandat français qui manifestait l'opposition de la majorité des habitants contre les mandats. En Syrie, on a eu au cours d'une bataille historiquement connue comme la bataille de Maïsaloun, une défaite de l'armée nationaliste syrienne qui réclamait l'indépendance de la Grande Syrie face aux troupes françaises. Et c'est donc à la suite de ces défaites militaires consécutives en Irak et en Syrie que de nouvelles élites vont effectivement considérer que bien il faut faire avec les États qui sont en place et oublier tout simplement le rêve pan-arabe ou le limiter au discours politique comme une légitimation d'États qui, eux, ne vont jamais trouver une base citoyenne partagée par tous.
Alors, en ce qui concerne l'Irak et la création du code de la nationalité irakienne, vous expliquez que les sunnites ottomans deviennent automatiquement irakiens, mais que ce n'est pas le cas pour les chiites. Pour quelle raison ?
Ce premier code de la nationalité irakienne, qui date de 1924, montrait très clairement, peut-être à la différence de la Syrie, le caractère confessionnel affirmé de l'État irakien en tant qu'État sunnite, avec donc son corollaire, c'est-à-dire l'alliance avec la domination britannique à travers le mandat. Et on le voyait très bien, la conception de qui était irakien, qui s'est imposée donc à la faveur de ce code de la nationalité. Ceux qui avaient eu la nationalité ottomane et qui étaient donc sunnites, arabes ou kurdes, avaient la nationalité irakienne sans même la demander de façon automatique, alors que les chiites qui, pour différentes raisons, soit parce qu'ils ne reconnaissaient pas la légitimité de l'État ottoman, soit parce qu'une majorité d'entre eux vivaient dans des zones tribales totalement incontrôlables et incontrôlées par le gouvernement et n'avaient aucune notion donc de ce que pouvait signifier donc la soumission à un État, mais on va voir que l'immense majorité de la population, donc en l'occurrence les chiites, vont devoir prouver leur irakité et vont finalement hériter d'une nationalité irakienne de seconde zone qui va être bien plus tard remise à l'honneur par Saddam Hussein avec des certificats A de rattachement ottoman et des certificats de nationalité irakienne B avec toute la suspicion qui y était attachée.
Est-ce qu'à votre sens, Pierre-Jean Louisard, la discrimination des chiites serait constitutive de la création même de l'État irakien ?
Je le pense. Je pense qu'on a en Irak un exemple même de fondation d'un État confessionnel, même si on ne trouve dans aucune constitution irakienne mention des mots sunnites et chiites. Mais la conception d'État-nation ethnique arabe telle qu'elle s'est imposée, d'une part excluait les Kurdes, qui évidemment à partir de 1925, et au moment où ils ont été rattachés à l'Irak, ne se sentaient pas, et pour cause, arabes, mais excluait également les chiites, pour qui l'Irak devait être un pays dont le ciment serait l'islam sunnite mais aussi évidemment chiite et où il n'y aurait pas de dépendance par rapport à un pays européen avec donc un mouvement consensuel parmi les chiites contre le mandat. Et le fait que la Grande-Bretagne ait rencontré le projet politique d'élite arabe sunnite a fondé est dans la composition sociologique des élites et dans les conceptions qui ont présidé à la fondation de l'État, un système politique qui était bien un système sunnite.
Alors Pierre-Jean Louisard, côté syrien, vous dites que la situation est assez différente parce qu'en fait il y a beaucoup plus de minorités face à une majorité arabe sunnite, environ 70%, et puis des Kurdes également sunnites, environ 6%.
En Syrie, la situation est différente. La Syrie est certainement plus arabe sunnite que l'Irak n'est chiite. Et de ce fait, il n'y a pas eu de connotation confessionnelle lorsque les Français ont fondé donc l'État syrien, même s'il y a eu une tentative de scinder la Syrie à l'infini, hein, puisque on a vu que le Grand Liban, pour préserver les droits des chrétiens, a été séparé donc d'une Syrie historique, à la suite de quoi les Français ont tenté de fonder un État alaouite, un État du Djebel Druze, un État d'Alep, un État de Damas, avant de voir que finalement cette implosion de la Syrie n'avait pas de signification. Mais il faudra beaucoup plus de temps qu'en Irak, pour qu'on voit le jeu des minorités en Syrie, notamment des Druzes, des Ismaéliens et des Alaouites, se manifester. Mais on ne peut pas comparer ce processus avec ce qu'il y a eu en Irak, dans la mesure où il serait ridicule de parler d'un État alaouite en Syrie, alors qu'il y a bien eu un État sunnite en Irak.
Comment pouvez-vous nous expliquer le choix français, dans le Grand Liban, hein, de diviser en fait le Grand Liban sous prétexte de protéger un certain nombre de minorités religieuses?
C'est un choix qui date bien avant la Première Guerre mondiale. Les grandes puissances avaient acquises chacune, la France, la Grande-Bretagne, la Russie, la protection attitrée de minorités. Et on va voir que peu à peu, au courant du 19e siècle, donc le Mont Liban et Beyrouth vont accueillir des institutions, un système politique qui, même s'il continuait à être toujours partie intégrante de l'Empire ottoman, avait une spécificité, que ce soit dans le régime de la terre, dans l'émergence d'un émirat autonome et dans les relations que chacune de ces communautés, maronites, druzes et sunnites notamment, et orthodoxes pour les russes, entretenaient donc avec des puissances étrangères. Donc c'est un rêve, je dirais, qui a été encouragé par les puissances étrangères et qui s'est transformé au moment de la Première Guerre mondiale en désir français de fonder un État où les chrétiens seraient déclarés majoritaires.
Même si... Et ils ont un statut particulier du coup.
Et ils ont, tout le monde avait un statut à l'époque ottomane particulier, à l'exception, il faut le dire, des minorités musulmanes. Mais les minorités chrétiennes et juives, par exemple, avaient donc un système des 1000 lettres qui les représentait, et c'est effectivement à partir de ce système des 1000 lettres qui, à l'époque ottomane, donnait une autonomie administrative à chacune de ces confessions.
Alors 1000 lettres, on l'écrit M-I-2-L-E-T.
Bon, voilà, c'est un mot d'origine persane avant d'être turc, qui a fini par désigner donc les communautés religieuses particulièrement nombreuses au Liban, et ces communautés religieuses vont parfois s'entre déchiré, comme ça va être le cas en 1860, parfois collaborer entre elles, toujours donc dans un objectif d'autonomie par rapport à la porte. Et c'est ce désir d'autonomie que les grandes puissances européennes vont exploiter pour créer donc un Liban fait d'un assemblage de minorités, mais essentiellement pour la minorité chrétienne et plus particulièrement maronite, puisque le désir de la France était bien qu'il y ait au Moyen-Orient un État au moins majorité chrétienne.
L'État islamique à la lumière de l'histoire, c'est à suivre juste après les infos sur RFI.
Monde.
Le 5 juillet 2014, le chef de l'État islamique, Abou Bakr al-Baghdadi, apparaît pour la première fois dans une vidéo postée sur des sites djihadistes. Proclamé calife par son groupe, il réclame allégeance à tous les musulmans. Le califat islamique s'étend sur les territoires contrôlés par l'État islamique de la ville syrienne d'Alep à la province irakienne de Diyala. Quelle est la nature de ce califat, régime politique dont le dernier a disparu dans les années 20 lors du démantèlement de l'Empire ottoman. L'État islamique à la lumière de l'histoire, c'est avec notre invité historien Pierre-Jean Louisard, auteur du livre Le piège Daesh aux éditions La Découverte.
La marche du monde. Valérie Nivelon.
Pierre-Jean Louisard, vous connaissez bien le Moyen-Orient, vous vous rendez régulièrement où deux États, l'Irak et la Syrie, sont le théâtre de la prise de pouvoir d'un grand territoire transnational sunnite par l'État islamique dont le chef est proclamé calife depuis le 5 juillet 2014. Pourquoi un califat, à votre sens ?
C'est une revendication récurrente des mouvements qu'on qualifie à tort ou à raison d'islamistes, dans la mesure où l'institution du califat réunit le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel. Le califat a été aboli par Mustafa Kemal, donc puisqu'il était entre les mains d'une famille turque, les Ottomans, depuis plusieurs siècles. Et ça a été dans le mouvement réformiste et dans les mouvements islamistes qui ont suivi dans le monde arabe, une revendication récurrente, c'est-à-dire que les régimes en place n'étaient pas légitimes, que les États en place n'étaient pas légitimes parce qu'ils avaient été créés par les puissances coloniales et qu'il fallait rétablir le califat et le donner à un représentant arabe descendant, donc direct si possible, du prophète, donc de la famille Quraysh.
Alors revenons, si vous voulez bien, aux premières conquêtes de l'État islamique en Syrie en 2013, Raqqa, Deir ez-Zor, et puis janvier 2014, l'occupation de Fallujah. Alors, ce sont des villes laboratoires où c'est la charia qui fait loi. Comment ça se passe ?
Il est évidemment presque impossible de se rendre aujourd'hui dans les territoires contrôlés par l'État islamique, mais on a quand même un certain nombre d'éléments, de témoignages et de contacts qui, malgré tout, continuent, téléphoniques notamment, ou par des voyageurs, puisque les zones ne sont pas totalement étanches. On peut passer d'une zone à l'autre. Et comment ça se passe, si vous voulez, on est souvent étonné, étant donné que nous sommes confrontés à une volonté d'auto-diabolisation de la part de l'État islamique, que des populations aient pu faire allégeance à une organisation qui met en scène des atrocités. Mais bon, ça n'est pas la première fois dans l'histoire. Pendant la Seconde Guerre mondiale, on a vu que certains courants politiques étaient capables de sentiments envers les uns et de barbarie envers d'autres au nom d'une pureté idéologique et qui condamnait un certain nombre d'êtres humains ne pas devoir exister. Et c'est le cas, là, l'État islamique a voulu fonder un État de droit avec des institutions, avec des règles qu'il a prétendu et qu'il a d'une certaine mesure respecté durant les premiers mois de son règne et qui explique en grande partie que pour une majorité des populations, il y a eu un sentiment de mieux, même si c'était relatif, par rapport à la situation qui prévalait aller avant, que ce soit une situation en Irak où le gouvernement central de Bagdad régissait ces villes, ou en Syrie où d'autres groupes salafistes comme Jabhat al-Nusra faisaient régner une situation de non-droit pour le moins.
Concrètement, et d'après vos informations, Pierre-Jean Louisard, qu'est-ce que l'État islamique rétablit et qui pourrait expliquer que justement des populations lui font allégeance ?
Il rétablit d'abord, et là c'est aussi un paradoxe, la sécurité. Il rétablit la sécurité dans la mesure où, autant en Irak qu'en Syrie, les États en place et les armées, les forces de sécurité en place ne sont plus depuis longtemps des forces de sécurité au service de la population, mais au contraire sont devenues des machines à tuer les populations civiles. Et bon, on le sait de la part de Bachar el-Assad en Syrie, mais il y a eu un processus similaire en Irak qui est beaucoup moins connu, notamment lors des printemps arabes de 2011. Donc effondrement de l'État central qui a été exploité par les différentes milices et par différents réseaux de clientélisme. Tout ceci a pris fin avec l'arrivée de l'État islamique qui a établi donc un régime unique, la disparition de la corruption, la disparition d'un certain nombre de réseaux clientélistes et qui s'est porté garant de la délégation du pouvoir localement à des acteurs locaux, ce qui n'était jamais arrivé, même du temps de Saddam Hussein, par exemple.
Et l'État islamique fait également la distinction, vous l'avez bien précisé, entre les sunnis, j'allais dire, et les autres. Pour mieux comprendre, comment distingue-t-on un chiite d'un sunnite ?
Il y a une façon terrifiante qui a été illustrée par un épisode au début de l'année 2014. Un camion rempli de soldats irakiens est arrêté par des groupes djihadistes qui font descendre les soldats, et la première chose qu'il leur est demandé à ces soldats est de faire leur prière. On sait que la prière n'est pas exécutée de la même façon suivant qu'on est sunnite ou chiite. Les ablutions sont différentes, le gestuel est différent, l'émotion probablement aidant. Beaucoup d'entre eux se sont trompés dans les gestes qu'ils voulaient sunnites et ont trahi leur chiisme. Ils ont été immédiatement assassinés par dizaines. Les sunnites ont eu la vie sauve. Vous allez à Bagdad aujourd'hui, vous prenez un taxi où la première chose qu'on vous demande est l'origine de votre quartier. Et on sait aujourd'hui, à travers une ou deux questions, comment identifier un sunnite d'un chiite. Et puis il y a 1000 signes évident, des porte-clés à l'effigie des chefs religieux chiites ou de l'imam Ali. Bon, là, voilà, le chiisme est évident. Et les noms de famille aussi, même si certains noms de famille peuvent prêter à confusion. Bon, par exemple, les Jouburi peuvent être sunnites ou chiites. Il y a des chamars sunnites et des chamars chiites. Mais, encore une fois, aujourd'hui, les Irakiens sont, hélas, devenus experts pour distinguer l'un de l'autre. Et cela nous rappelle la montée, par exemple, du nazisme, hein, d'une certaine façon, avec les discriminations envers les juifs, dont certains avaient totalement oublié leur judaïté, par exemple.
Vous écoutez La Marche du Monde avec Pierre-Jean Louisard. Nous revenons sur l'État islamique et la lumière de l'histoire. Si au début de cette émission, nous avons évoqué le rêve de Faisal d'un grand royaume arabe uni, j'aimerais, si vous le voulez bien, que l'on revienne sur un autre épisode de rêve d'unité. Je parle du rêve des sunnites qui renaît après la révolution des officiers libres en Égypte, un nouveau rêve panarabique mené par Nasser en 1958.
أيها المواطنون هذا اليوم الذي تلتقي فيه جمهورية تونس.
Ce jour où s'unissent la République égyptienne et la République syrienne pour faire une République arabe unifiée, ce jour est un des jours de la vie dont on a tout lieu de se glorifier à jamais. Aujourd'hui, le peuple arabe en Syrie et le peuple arabe en Égypte déclarent leur décision et proclament le nouvel État, un grand État, la nouvelle République arabe unifiée. C'est ensuite au président de la République syrienne, M. Choukri Kouatli, qu'est passée la parole.
يا إخوة العرب هذا يوم.
Ce jour est le plus grand qui apporte un grand bouleversement de portée mondiale dans cette capitale arabe. Nous annonçons au nom du peuple arabe de nos deux nations la naissance de la République arabe unifiée. Nos frères, mes frères, c'est une journée historique. Elle le sera aux yeux des générations à venir. et le passé et le présent seront les fruits des efforts de notre guerre sainte. Ô Égyptiens, frères dans l'arabisme, je vous félicite de votre essor sous la direction de l'homme arabe inspiré, Gamal Abdel Nasser. Avec vous, nous irons de l'avant, et nos cœurs sont avec Dieu, et Dieu est notre guide et notre victoire.
L'expérience de la République arabe unie ne durera que 3 ans, Pierre-Jean-Louis Arme. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre pour quelles raisons les Syriens et les Égyptiens s'unissent. Quel est leur ennemi commun à l'époque ?
Leur ennemi commun, c'est Israël. Leur ennemi commun, ce sont les anciennes puissances coloniales. Et la République arabe unie semblait être la réalisation, vous l'avez dit, d'un ancien rêve d'unité arabe qui était un rêve surtout chéri par les majorités arabes sunnites, égyptiennes, syriennes et dans d'autres pays. Mais l'échec de la République arabe unie, de l'aveu même de ceux qui auraient dû être en être les principaux protagonistes, notamment en Syrie, montrait très bien la duplicité des élites qui étaient au pouvoir. Parce que finalement, pour rester au pouvoir, elles avaient un discours nationaliste arabe pour flatter les masses arabes, on va dire, qui étaient partisanes d'une unité arabe, alors que dans les faits, ce qui les intéressait était le contrôle de l'État en place. L'État syrien, l'État irakien, l'État égyptien. Et très vite, on va voir une confrontation entre deux manifestations du nationalisme arabe, le nasserisme qui représentait l'Égypte et cette version, on va dire, levantine du nationalisme arabe avec le parti Baath qui évidemment n'était pas favorable à voir la Syrie devenir vassale de l'Égypte et de Nasser et qui très vite va manifester donc une opposition sourde à la domination égyptienne venant notamment de qui évidemment des minorités en Syrie alaouites, et ismaéliennes qui vont peu à peu à l'intérieur du parti Baath faire capoter ce beau rêve d'unité donc qui en 1961-62 se termine.
Est-ce que c'était aussi une façon de lutter contre le communisme ?
Effectivement, on est en pleine la expansion des organisations des partis communistes qui étaient considérés par les nationalistes arabes comme leurs principaux rivaux et c'était effectivement une façon de rallier donc la rue arabe, un idéal. L'histoire au Moyen-Orient est souvent faite de faux-semblants et il faudra beaucoup de temps pour que la légende de Nasser et l'attachement du parti Baath à l'unité arabe soient remis en cause et je dois dire que même jusqu'à aujourd'hui, beaucoup accréditent la loyauté des uns et des autres envers un idéal quand en fait ils ont trahi les uns et les autres.
Alors Pierre-Jean-Louis Arme, pour les minorités chiites dans les sociétés justement arabe, est-ce que ce communisme pouvait représenter un espoir d'égalité sociale, mais laïque ?
Tout ce qui pouvait transcender le clivage confessionnel et aboutir à une citoyenneté commune, partagée et égalitaire était évidemment le choix des minorités comme des majorités. Les chiites sont majoritaires très largement en Irak. Donc il y avait plusieurs options. Il y avait effectivement des partis laïcs de gauche, le parti communiste, mais il y avait aussi les partis nationalistes arabes et notamment cette version levantine ou du Mashrek du nationalisme arabe représenté par le parti Baath. Je rappelle que le parti Baath en Irak a été fondé par des chiites parce qu'ils voyaient dans une arabité commune un dépassement de la domination multiséculaire des Arabes sunnites. Donc on a eu des tentatives de dépasser les clivages confessionnels à travers des engagements multiples, mais ces engagements multiples, qu'il s'agisse du nationalisme arabe ou de l'engagement en faveur d'une réforme sociale avec le parti communiste, ont échoué les uns après les autres et on le verra à partir des années 60. Le retour notamment en Irak de la question irakienne va très bien montrer que tout cela, hélas, n'était que des illusions.
Et finalement, le réveil des chiites sera religieux en 1979 avec la révolution iranienne.
Après 15 ans d'un exil qui l'avait contraint à s'exprimer par communiqué ou par interview, en Irak d'abord, à Naufle-le-Château ensuite, l'ayatollah Khomeini a prononcé hier son premier grand discours politique sur le sol iranien. Il l'a fait juché sur une estrade installée au milieu du cimetière géant de Beheshtezara, sur un ton dur qui est apparu comme un double réquisitoire contre le Shah et contre Shapur Bakhtiar. Du Shah, il a dit et répété qu'il le tenait pour un traître, que ses méthodes ont conduit le pays à la ruine, l'agriculture à la faillite, et que grâce à lui, une ville comme Téhéran disposait désormais d'un plus grand nombre de bars que de librairies. Il a prédit aussi pour le souverain iranien un exil définitif, en laissant tomber ce jugement salvé par l'ovation de la foule, « Moi ici, jamais je n'autoriserai le retour du Shah ». Il faut retenir de ce discours choc deux petites phrases peut-être lourdes de conséquences pour la suite des événements. 1. Je ferai passer tous ces usurpateurs devant des tribunaux. 2. Désormais, c'est moi qui formerai le gouvernement.
Si la révolution iranienne est soutenue par Damas, par la Syrie, la révolution iranienne est au contraire considérée, je vous cite, comme un danger mortel par le régime de Bagdad. Et vous écrivez, Pierre-Jean Louisard, que la guerre Iran-Irak, qui démarre d'ailleurs l'année suivante, en 1980, doit être vue comme le prolongement d'une guerre civile larvée. Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer ?
Oui, à la suite de l'échec des utopies politiques nationalistes arabes ou communistes qui étaient transcommunautaires par nature, il y a eu un réveil communautaire chiite à l'échelle du monde arabe. Les communautés chiites du monde arabe du haut des Cimènes avaient ceci en commun d'être des communautés dominées socialement, même s'il y avait aussi une bourgeoisie prospère, mais la plupart des chiites étaient au bas de l'échelle sociale, autant dans le Golfe qu'en Irak, qu'au Liban, est dominé politiquement par des régimes souvent sunnites et autoritaires, comme c'était le cas en Arabie Saoudite, à Bahreïn et en Irak. Il va donc y avoir un mouvement d'émancipation interne, mais aussi externe, conduit par un jeune clergé chiite, militant à partir des années 50. Le plus célèbre d'entre eux est Mohamed Bakr al-Sadr, qui a été exécuté par le régime de Saddam Hussein en 1980, et la révolution islamique en Iran a été préparé avec ce terreau, donc à partir des villes saintes chiites d'Irak, notamment Najaf et Karbala dans les années 70. L'imam Khomeini, qui n'était à l'époque que l'ayatollah Khomeini, va être entouré d'une pépinière des futurs cadres des partis islamistes chiites. Khomeini participe depuis l'Irak au mouvement révolutionnaire en Iran, et lorsque la révolution islamique en Iran a lieu en 1979, le clergé chiite dans le monde arabe croit que son heure a enfin sonné, l'heure de la revanche. C'est notamment le cas en Irak, où une guerre civile larvée entre le régime bassiste et un mouvement chiite renaissant donc va s'aggraver, notamment à la fin des années 70.
Et cette guerre Iran-Irak, c'est à nouveau un moment clé, puisqu'à nouveau l'Irak et les grandes puissances occidentales vont s'allier. Les États-Unis, mais aussi l'Angleterre et la France, vont soutenir le régime de Saddam Hussein de toutes les façons, pour finalement mettre en tutelle l'Irak et lui déclarer la guerre après les attentats du 11 septembre. Alors Saddam Hussein sera condamné et pendu le 30 décembre 2006. Est-ce que c'est la fin de l'État irakien né au début du siècle ?
À partir de la première guerre du Golfe, donc entre 1980 et 1988, l'Irak va connaître une descente aux enfers qui correspondait à l'agonie d'une institution, l'agonie d'un État irakien. Il va y avoir trois guerres du Golfe, une insurrection, une mise sous tutelle, la partition partielle de l'Irak avec la constitution d'une zone kurde. Et en 2003, cela montre bien la méconnaissance qu'avaient les Américains de l'Irak, parce qu'ils pensaient pouvoir reconduire un État irakien, mais sans Saddam Hussein, et lorsqu'ils mettent Saddam Hussein avec son régime à bas, c'est l'État qui s'effondre, et il y a à ce moment-là un moment historique où cet État qui était en guerre contre sa société depuis 1920 disparaît.
Dernier grand épisode historique, Pierre-Jean Louisard, les printemps arabes, comment ont-ils paradoxalement précipité la naissance des mouvements islamistes armés en Irak, mais aussi en Syrie, dans la Syrie des Assad.
En Irak, les mouvements islamistes chiites armés sont plus anciens que les printemps arabes. Si on remonte à la fin des années 50, on a déjà des groupes qui, à l'époque, étaient accusés par le régime de Bagdad d'être liés au Shah d'Iran, mais des groupes armés qui vont susciter des attentats à Bagdad et ailleurs. Mais il est vrai que les printemps arabes de 2011 ont libéré partout les sociétés civiles, les sociétés civiles qui se sont manifestées d'abord en Syrie et en Irak, mais même si ça a été décliné sur un mode communautaire avec un printemps arabe chiite, sunnite et un printemps kurde. Mais on va voir donc des mouvements spontanés, au début avec les mots d'ordre des sociétés civiles telles qu'on pouvait les entendre au Caire ou à Tunis, c'est-à-dire la lutte contre l'autoritarisme, contre le despotisme, contre la corruption, pour la dignité, contre la misère sociale. Mais c'est la façon dont les gouvernements en place, d'abord à Damas mais ensuite à Bagdad, vont répondre donc à ces revendications qui va provoquer une radicalisation confessionnelle, la disparition des partis politiques au profit de partis qui désormais ne prennent plus en compte que votre appartenance communautaire, suivant que vous êtes chiite, sunnite ou kurde. Et on va voir que la Syrie, qui avait longtemps échappé à cet engrenage confessionnel, va être à son tour rattrapé avec une image du régime de plus en plus accolée à l'origine confessionnelle alaouite de ses principaux membres.
Pierre-Jean Louisard, j'aimerais que l'on se penche sur le rôle de ces communautés, sur la construction hier de ces États et sur leur déconstruction aujourd'hui. J'aimerais que l'on revienne sur une citation que vous faites dans votre livre du sociologue Michel Seurat, enlevé et assassiné au Liban. Michel Seurat écrivait « L'État au Moyen-Orient est une asabiya qui a réussi ». C'est extrêmement important que vous nous expliquiez cette notion. Pour qui veut comprendre justement ce qui se passe au Moyen-Orient ?
Le mot asabiya en arabe désigne des solidarités primaires locales, donc tribales, familiales, claniques, de quartier, souvent fondées sur les liens du sang. Et ces solidarités sont d'autant plus fortes, de façon naturelle, que l'État ne remplit pas son rôle de protection d'une citoyenneté partagée. Et c'est bien ce qui réunit finalement tous ces États arabes de création mandataire, c'est qu'ils n'ont jamais réussi à offrir, à ouvrir des perspectives de citoyenneté commune et partagée donc par toutes les communautés, ce qui explique la permanence et même le renforcement qui, donne notre point de vue d'Européens, est difficile souvent à expliquer, de liens qui étaient des remparts contre un État souvent prédateur, et donc qu'il soit entre les mains d'une famille, d'un clan ou au-delà donc d'une communauté. Le confessionnalisme au Moyen-Orient, à l'exception de l'Irak et de Bahreïn, qui sont des régimes à forte connotation sunnite dès l'origine, mais le confessionnalisme s'est frayé un chemin à travers ce jeu, ces stratégies de asabiya. C'est parce qu'il y avait des stratégies de groupes régionaux, locaux, pour s'emparer du pouvoir à travers le Parti Basse, à travers l'armée, que l'origine confessionnelle commune va finalement aboutir à une présence confessionnelle, même si ça n'était pas délibéré. C'est en ce sens que je dis qu'on ne peut pas accuser le régime de Damas d'être alaouite au même titre que le régime de Saddam Hussein était sunnite. Mais finalement, et c'est là la tragédie, on voit que l'occupation américaine de 2003 et le printemps arabe de 2011 en Syrie ont finalement bien abouti au même résultat, c'est-à-dire l'effondrement dans les deux pays des États en place.
Et au fond, aujourd'hui, le succès dans certaines villes de l'État islamique s'explique aussi parce que c'est au clan local, cette fois, que l'on redonne le pouvoir.
Tout à fait. Il y a aujourd'hui une situation vertigineuse où des populations sont dépourvues d'État. Que ce soit à Damas ou à Bagdad, les États qui sont officiellement et internationalement reconnus aujourd'hui, notamment par notre diplomatie, et bon, c'est normal, hein, les diplomaties reconnaissent les États et les frontières en place, mais ces États ne font plus office de siège d'un pouvoir reconnu comme tel par l'immense majorité de la population. Ce sont des milices, d'ailleurs, les milices chiites et les milices du régime de Bagdad sont presque aussi puissantes que, et même plus puissantes dans le cas de l'Irak, que les armées dites officielles. Donc le clan est l'ultime protection. Quand vous avez des autorités qui se comportent comme des autorités voyous, comme c'est le cas donc en Syrie et en Irak, qu'est-ce qui vous protège ? Eh bien c'est la tribu, c'est la famille, c'est le clan, et au-delà c'est donc la communauté.
Merci Pierre-Jean Louiseur. Je rappelle votre livre, Le piège Daesh, aux éditions La Découverte. L'État islamique à la lumière de l'histoire, c'était une marche du monde réalisée par Cécile Pompéani avec les archives de l'INA et de la Sonothèque de RFI. N'hésitez pas à nous écrire à l'adresse suivante, marche.monde@rfi.fr. Réagissez sur la page Facebook de l'émission. Podcastez cette émission, c'est la vôtre.